Merci à tous, en tout cas, pour vos présentations, celles que j'ai pu voir, que j'ai vraiment beaucoup aimées. Je suis vraiment fier de vos projets de recherche. Ouais. Moi, ma présentation va finalement être assez, un petit peu différente, un petit peu décalée par rapport au vôtre. Je ne suis pas doctorant, mais effectivement, comme le disait Gretchen à l'instant, je vais me faire l'écho d'un travail qui a été porté par notamment des doctorants, des post-doctorants. On a appelé ça effectivement le projet de Glossaire au sein du Performance Laboratory. Donc, je ne vais pas redire ce qu'a très bien énoncé Gretchen, un projet pluridisciplinaire qui a démarré en 2018. Le Glossaire, donc, au sein duquel je suis en designer graphique, donc à la fois appui, soutien à la recherche et soutenir les enjeux de design aussi, c'est-à-dire travailler les solutions éditoriales, travailler des traductions graphiques de la recherche, proposer des outils, des créations d'outils, identifier des besoins, identifier des références pertinentes. Tout ça, c'est mon travail de designer graphique et du coup, ça fait depuis 2018, fin 2018, que je l'exerce au Performance Lab et en particulier pour le projet Glossaire. On entend par glossaire un système composé d'une liste de termes qui convoque des définitions. Ce projet a démarré en 2018-2019 et se poursuit encore aujourd'hui. Il fait effectivement le fruit d'un travail d'une trentaine de personnes, donc une dizaine d'actifs, et puis des chercheurs, des artistes qui ont été convoqués tour à tour, chercheuses, chercheurs, doctorants, doctorantes, post-doctorants, pas mal de monde comme ça qui ont fait communauté pendant un temps pour aboutir à un projet dont je suis en train de vous parler. Donc j'espère faire bon usage de ce qui a été fait. Ma présentation va être en trois temps, un temps sur les enjeux, un temps sur l'historique du projet et puis le dernier temps sur le design graphique. Je vais essayer d'aller pas rapidement mais efficacement, je vais dire, sur les enjeux, sur l'historique, pour que du coup on laisse un peu de temps pour étudier le site web et parcourir la chose, et voir des images aussi en quelque sorte, et voir le fruit du travail qui a été produit, qui est un travail qui a duré 3 ans par une personne, donc un travail assez dense. Je rappelle un peu les enjeux en fait de ce projet Glossaire. Les premiers enjeux de départ, en fait, il y a un enjeu documentaire et d'observatoire de la recherche au Performance Lab, quelque chose qui est un peu sur la recherche en création, pas forcément une recherche en ou des choses comme ça. C'est une analyse réflexive de documentation de ce qui se fait. Donc, il y a pratiquement presque une étude de terrain qui s'est faite sur le Performance Lab. À côté de ça, il y a une dimension aussi, un enjeu de construire un outil de référence et un enjeu de traduction aussi. En fait, on partait d'un constat que notamment faisait Gretchen, de manque de repères, d'un manque de stabilisation de certains termes, et du coup, l'envie, le besoin de faire un objet de référence bilingue qui permette de s'y retrouver quand on parle de termes de recherche-création. Et aussi, du coup, une dimension pédagogique, c'est-à-dire que cet outil, cette plateforme, ce glossaire, devrait être accessible à des gens qui, justement, veulent apprendre, par exemple des étudiants en master. Et des enjeux qui me concernent beaucoup plus directement, mais pour lesquels, du coup, j'ai eu la chance d'être là depuis 2018, donc de les porter et de les dialoguer avec les acteurs du projet, designer un site web qui répond à ces questions-là, qui soulève les enjeux, qui parfois voilà, peut les dévier ou alors en faire des clins d'œil, et du coup, est aussi un enjeu propre à l'actualité de la recherche en humanité numérique, donc, et à la science ouverte, c'est-à-dire avoir une description normée des données. Je ne vais pas forcément m'éterniser là-dessus, mais on utilise un outil qui permet d'être en gros interopérable avec d'autres outils. On pourrait faire des passerelles entre outils. Au niveau de l'historique du projet, donc je rappelle un travail sur 3 ans avec pas mal de gens. Donc là, je vais proposer une frise des personnes qui ont activement travaillé sur ce projet. Vous voyez que je suis arrivé en fin 2018. Donc je vais tous les citer. On a Osgula Kinsey, Amélie Bourduche, Caroline Sanchez qui était là ce matin et hier aussi. Pamela Amar, Martin Givor, Sarah Wahri, Alice Ferraglio et Félix de Montetti qui est au-dessus ici, qui est présent avec nous aujourd'hui. Donc, des doctorants, des post-doctorants, doctorants, post-doctorantes aussi, des athers, des stagiaires, des contractuels. Donc, on a tous été à des moments différents présents sur ce projet. Donc, il y a eu des passages de main en main du projet. Envers, là, ce qu'on voit, il y a une ligne sur les séminaires, les webinaires, il y a une actualité de la recherche. Et puis, les dernières lignes, des entretiens et des contributions. C'est là où le spectre des acteurs du projet s'est augmenté et a atteint les 20 à 30 personnes qui nous ont donné des textes, qui nous ont donné des entretiens. Voilà, j'ai listé 8 phases du projet, les entretiens, la recherche documentaire. Je vais les détailler un petit peu pour qu'on s'y retrouve. Quelle a été en fait notre méthodologie pour étudier le terrain, pour collecter, faire une liste de termes, les sélectionner, choisir les composantes de ce glossaire, etc. etc. Donc, je vais dire en vitesse des petites choses et puis comme ça, vous pourrez lire aussi ce qui est à l'écran. Les entretiens, bah, c'était un enjeu d'étude du terrain du Performance Lab. Ça a été aussi l'ouverture à une première liste de termes. On a abouti à, je crois, 120 termes à la sortie des entretiens, c'est-à-dire qu'on a extrait certaines notions clés, certaines notions connexes. Donc, une masse importante de termes a émergé de ces entretiens. Côté, du coup, ça c'est côté de terrain, d'une certaine manière, et côté aussi canonique, en tout cas documentaire. Il y a eu énormément de recherches d'ouvrages, d'encyclopédies, de dictionnaires qui ont déjà été produits, donc, et ce qui a résulté en une collection de citations. On a abouti, je crois, à un document de 120 pages, j'ai noté 140 000 signes, donc on a abouti à beaucoup de citations, à beaucoup de références, et tout ça se met en forme avec la liste des termes. Quand on parle de liste des termes, nous, on avait cherché, il y a eu une volonté de réduire cette liste à quelque chose d'atteignable pour la force qu'on avait, la force de travail et le temps imparti. Donc, réduire la liste des termes provenant des entretiens, réduire celle de la recherche documentaire. On a eu plusieurs approches, des approches plus ou moins des approches scientifiques, de critères, est-ce que c'est pertinent ce terme-là? Des calculs d'occurrence, donc plus ou moins objectifs, plus ou moins biaisés suivant qui on avait interrogé, avec des vues parfois d'ensemble, on a alterné comme ça les allers-retours aussi avec les entretiens. Donc tout ça nous a, de cette liste, je parlais de 120 termes, on a abouti à une liste de 77 termes pour lesquels on est assez OK là-dessus et on navigue avec cette liste de termes en tête. Là, je vous montre un état de cette liste. Vous pouvez voir qu'il y a il y a des termes un peu qui reflètent le spectre à l'œuvre au Performance Lab, c'est-à-dire de la recherche en géographie, en études urbaines, en art du spectacle, en sciences informatiques, en anthropologie, en philosophie. Donc ça, c'est un état de la liste, c'est pas la liste finale. Il y a deux, trois petites subtilités qui ont évolué. Le modèle de données, une étape importante, c'est un peu un mot technique. C'est en gros, il faut comprendre que c'est une étagère où on met des choses et il faut bien que ces choses-là soient bien nommées. C'est là où c'est une passerelle entre la recherche et mon travail de construire des étagères pour stocker les choses. En gros, assez concrètement, ce qu'on a abouti, c'est je ne vais plus parler de termes, je vais parler de lemme, c'est-à-dire c'est du vocabulaire un peu de linguistique, c'est-à-dire qu'on a un lemme, une unité qui est composée d'un terme, son titre, d'une notice, donc c'est-à-dire une introduction de la notion, des citations, une bibliographie, ça, ce sont issus de la recherche documentaire, et ce qu'on a appelé les regards, c'est-à-dire des contributions écrites par des membres du Performance Lab. Cet appel à ces contributions, ces regards, ils ont été le résultat d'un appel à contributions. Donc, on a abouti à 47 contributions avec 25 contributeurs. Ça a été la demande était de révéler, de mettre en valeur l'usage d'un terme. Ce n'était pas faire un article, ce n'était pas faire une définition. Donc c'était exemplifier, donner un statut expérientiel à la notion. Donc comme ça, on pouvait avoir une sorte d'équilibre entre une approche canonique par la recherche documentaire et une approche expérientielle, réflexive, rétrospective peut-être aussi de quelqu'un en particulier. Pour ce fait, donc pour cet appel à contribution, on a réuni un comité scientifique qui a apporté son regard scientifique sur le projet, relu, apporter des suggestions diverses, même sur la recherche documentaire. Voilà. Avec à notre échelle, on a essayé de mettre au point un processus éditorial qui essaie d'être le plus pertinent possible. J'enchaîne sur la partie design graphique, qui me concerne plus directement, et qu'encore une fois, elle a été transversale au projet. Elle a débuté par une collection, ce que j'ai appelé Interface de savoir. Je fais référence ici implicitement à un article d'Anthony Mazure, les interfaces qui permettent d'accéder à des bases de données, voilà, et qui sortent un peu du domaine universitaire, en quelque sorte, qui sont issues du domaine universitaire. Voilà, vous avez une liste ici de choses, par exemple le research catalogue qu'on a vu hier matin. J'ai sélectionné deux trois images pour caractériser un peu la chose. Un glossaire très, très classique, une liste de lemmes avec les définitions. Un glossaire ici beaucoup plus expérientiel, avec une cartographie et un parcours comme ça. Et ici, pas un glossaire, mais une approche très textuelle et relationnelle de l'éthique de Spinoza. Assez concrètement, donc là je rentre plus en plus dans le détail du projet graphique. On parlait de savoir situer hier et puis aussi au Performance Lab, ce que je disais sur la recherche de terrain. J'ai voulu faire une sorte de jeu de mots graphique pour le glossaire, c'est-à-dire en utilisant le vocabulaire de la cartographie. Donc ici, j'ai mis la couverture du livre de Jacques Bertin qui s'appelle La sémiologie des graphiques, qui est un livre paru en 1960. Bertin utilise a une approche très théorique de la cartographie qui consiste à sélectionner des variables. À ces variables-là, on peut leur faire dire des choses, association, sélection. Donc, il y a toute une grammaire graphique qui découle et dont on est assez familier, mais lui a une approche très analytique de ça. Et mathématique aussi. Moi, j'en ai eu une approche assez finalement de surface où le jeu visuel m'a intéressé pour être une citation. Donc voilà des images issues de son livre. Il y a un enjeu mathématique derrière, c'est-à-dire un calcul des masses de blanc et de noir, logarithmique de ça, quoi, pour avoir un équilibre en fait, de jeu. Et du coup, j'ai transformé ça en CSS, c'est-à-dire mon langage web, pour essayer de faire de l'image avec du code. Du coup, il ne me reste plus beaucoup d'images sur le site. On est sur un site qui est très léger, qui est juste textuel, c'est-à-dire et un peu codé. Donc, il y a une sélection de typographie orientée vers la lecture confortable de texte. Une contrainte supplémentaire que je me suis fixée et qui a été en accord avec les sélections pour faire quelque chose de confortable à lire, c'est-à-dire deux couleurs, bon, une sorte de blanc, une sorte de noir, un petit peu tirant vers le gris, tirant vers l'anthracite ou le bleu foncé, qui me permettait d'associer, le vocabulaire graphique me permettait d'associer aux composantes du glossaire une sorte de trame et de jouer sur ce rapport noir et blanc comme une sorte de carte qu'on renverse et qu'on lit. Je vais vous montrer le site en l'état, donc c'est-à-dire parcourir les pages de liste, la liste des lemmes, le détail d'un lemme, la page à propos, vous montrer le bilinguisme, comment il fonctionne, et quelques outils de navigation, une page de graphe et la fonctionnalité d'impression si j'ai le temps. Alors, sur le site à proprement parler, on retrouve le titre, regard croisé, ça fait écho aux contributions, une introduction, ici les outils dont je parlais, je fais juste une sorte de sous-titre et après je manipulerai. Ici, est-ce qu'on a un lemme au hasard, c'est-à-dire visualiser un lemme comme ça qui à chaque recherche de page arrive. On a la liste des lemmes, donc on retrouve ce vocabulaire graphique, cartographique, qui permet un peu de manière énigmatique de dire ce qu'il y a sous ce lemme. Est-ce qu'on a une notice, des contributions, des regards? Est-ce qu'on a du canonique, est-ce qu'on a des citations, est-ce qu'on a de la bibliographie. Cette liste de lemmes, il y en a 77, donc elle est volumineuse. On retrouve ici une page à propos qui mériterait peut-être d'être un peu mieux mise en page, mieux mise en valeur pour qu'on retrouve, si quelqu'un veut savoir comment le glossaire s'est fait, c'est ici que ça se passe. Donc toutes les étapes que j'ai recitées sont ici. Le comité scientifique réapparaît ici, les contributeurs aussi. Et ainsi de suite, et plusieurs sous-catégories aussi qui sont présentes. Si je clique maintenant, par exemple, sur le lemme sonification, j'arrive sur sa page détail, on retrouve la notice, donc un texte qui est assez clair, qui essaie d'être le plus clair possible pour avoir une sorte d'ancrage théorique, académique de ce terme-là. On retrouve les regards sur un système d'onglets en fait, qui permet de parcourir les composantes du glossaire. Donc un regard, celui d'Andrea Giuni, il nous a écrit un texte sur l'usage du mot sonification. Si j'ouvre l'onglet citation, on retrouve des citations d'auteurs publiés. En fait, c'est ça le critère des citations. La bibliographie permet d'augmenter cet onglet citation avec des recherches, des ouvrages parfois plus précis. Une chose dont je vais aussi parler, on a essayé de faire au mieux pour que les choses soient citables. C'est-à-dire, ici, on retrouve un pour citer qui n'est pas encore tout à fait finalisé dans sa forme, mais avoir ce rapport-là a une exigence en fait à ce qu'on sache qui a écrit quoi, comment on peut citer et à quel moment. Donc, par exemple, si je suis en train de lire cette contribution d'Andrea, pour l'instant, une des solutions qu'elle a trouvées, c'est de fixer le nom de l'auteur de la contribution pour l'avoir ici, avoir le pour citer qui apparaît aussi en bas. Donc, tout ça est un outillage pour à destination d'étudiants qui auraient besoin de s'y retrouver de manière assez claire. C'est aussi actif sur les citations. On a fait un gros travail de clarification, de stabilisation de comment on cite pour que l'usage soit le plus facile possible. Il y a un système de catégories et de renvoi de l'aime entre eux aussi, qui est assez logique. Je vous montre les outils, par exemple, de filtre. Donc, comme on a une liste de 77 lemmes, c'était intéressant de pouvoir filtrer. C'est-à-dire qu'on a fait des catégories, donc approche, concept, méthode. Certains lemmes sont des approches, certains lemmes sont plutôt des concepts. Donc, on peut activer ce filtre-là pour réduire la liste, parcourir que les concepts, c'est en l'occurrence ce que je suis en train de faire, parcourir tout l'ensemble des lemmes. Pour les aficionados, on a la possibilité de date de modification. Donc, apparaît ici les dates de dernière modification du lemme. Si jamais il y a eu un dernier changement, on peut être au courant. Et une fonctionnalité de recherche qui, pour l'instant, n'est pas complète. Elle cherche que dans les titres. Donc, si je cherche, par exemple, Andrea, je ne vais pas avoir le résultat. Mais il y a une solution pour ça. Du coup, elle va être augmentée, cette solution, pour que du coup on puisse avoir une recherche plein texte, c'est-à-dire taper le nom d'un contributeur ou d'une contributrice et d'arriver à avoir le lemme qui apparaît ici. Alors, il y a une page peut-être que je voulais montrer aussi qui est en travaux encore. C'est la volonté. Je ne vais pas vous la montrer. On voulait faire un graphe. Donc, je pensais qu'en ligne, là, c'est bon, pas grave. C'est un système une vue synoptique en fait, qu'on voulait avoir pour naviguer et avoir le système des renvois, un réseau en fait, donc de nœuds qui se renvoient les uns aux autres et pouvoir, plutôt qu'une liste linéaire, avoir une vue synoptique. Donc, tout ça arrivera. Là, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas à ce moment-là. Ça arrivera aussi avec une page plus précise sur les. Par exemple, les lemmes propres à la recherche-création, performance as research, performance practice-led research, practice-based research. On va faire un gros travail, notamment avec Gretchen, de stabilisation de ces lemmes, avoir une page, peut-être une frise chronologique qui permet de visualiser, l'emprise historique, les lieux d'apparition de ces termes. Et du coup, ce que je veux dire, c'est qu'on augmenterait en fait le glossaire de visualisation, un graphe qui ne fonctionnait pas là maintenant, une frise chronologique. Je vois que je n'ai pas parlé de juste ce petit truc. On retrouve les définitions ici. Au clic, en fait, on a remis les définitions des composantes du glossaire. Elles apparaissent comme ça au clic. Il y a aussi un jeu de versionnage derrière. Donc, techniquement aussi, il y a une solution qui est en place pour revenir à des états antécédents du glossaire. Ça permet aussi potentiellement de faire des choses. Je reparcours comme ça d'autres lemmes pour juste profiter du contenu qui a été produit, des validations qu'on a eues aussi de la part du comité scientifique. La plupart des choses que je vous montre ont été relues, donc on est assez stabilisé là-dessus. Là, par exemple, le lemme partition pour lequel on a deux contributions, deux regards. Un regard de Rémi Ronfard, donc un ingénieur qui a une approche presque automatique de la partition, très informaticienne finalement. Et le second regard nous vient de Léa Andréoletti, qui est doctorante et du coup qui a cette approche beaucoup plus performative de la partition, de l'aspect collaboratif aussi de ce terme, de ce lemme-là. En termes de citation, on retrouve un ouvrage de Julie Sermon qui est d'ailleurs venu au Performance Lab. Donc ça fait, voilà, c'est à la fois état de l'activité scientifique du Performance Lab et de ce que je n'ai peut-être pas tout le temps dit, que les citations et les regards sont parfois en dialogue, en cet apport-là. C'est notamment le cas spécifiquement pour les citations, où là, on a deux citations qui en fait rentrent en écho. Donc Schechner qui définit le comportement restauré et Josette Ferral qui le critique. En fait. Je vais revenir à mon slide pour finaliser, pour conclure. La suite du projet, pour l'instant je vous remontre. Regard croisé sur la question performative, glossaire pluridisciplinaire entre arts, sciences sociales et informatique. Peut-être que le mot glossaire, non, déjà c'est bon, peut-être que le mot glossaire n'est pas assez valorisant, et il y a un travail presque encyclopédique, presque d'outillage, d'appareillage, de potentiellement inventer un nom, combiner quelque chose. Est-ce qu'il y a une évocation plus de l'enjeu cartographique qui pourrait revenir? On ne sait pas encore. Il y a un gros travail de traduction des notices et des regards. Donc ça, ce sont les notices et les regards, peut-être que je ne l'ai pas exprimé assez clairement, ce sont des textes inédits, c'est-à-dire qu'ils ont été créés pour le glossaire. Donc l'introduction des lemmes a été créée pour le glossaire. Les regards de Rémi, de Léa, d'Andrea sont écrits précisément pour le glossaire. Donc il y a un enjeu de traduction qui est intéressant. Et puis globalement aussi, je ne l'ai peut-être pas assez souligné, mais dans le site, on a essayé de proposer le lemme avec sa traduction en anglais à chaque fois. Et ce qui pose du coup aussi des problèmes, je reviens sur le cas spécifique de practice-based research, tout l'enjeu de comment traduire ça en français, en fait. Il y avait la présentation d'hier matin, de Eva, je crois, qui proposait des traductions de ces termes-là. Donc là aussi, nous, on a des questionnements aussi là-dessus, donc c'est un travail encore un peu. Je vous parlais de la frise chronologique à ajouter, et aussi, qu'est-ce que le glossaire après nous, puisque du coup, l'équipe active, là, en ce moment, c'est Félix et moi-même. Nous, on est en contrat, donc ça va s'achever. Donc, comment faire perdurer ce glossaire à l'avenir et lui donner le potentiel d'avoir de nouveaux appels à contribution, un nouveau comité éditorial. Bon, bien sûr, du coup, c'est institutionnel comme action, et ça va, mais je dois, du coup, documenter le plus possible, fournir un manuel de comment est-ce qu'on fait un lemme, c'est-à-dire comment on fait une notice, comment on demande à faire un regard à quelqu'un. Tout ça, ce projet-là, comment le clore et à la fois lui donner une fin, en fait, au sens où il pourrait y avoir un ouvrage qui est publié en papier, je ne sais pas, plus sur les regards, par exemple. Donc, quelque chose qui manifeste des usages d'un terme en particulier par quelqu'un. Ou alors un deuxième appel à contribution, puisque celui-là s'est fait de manière interne, c'est-à-dire dans le réseau Performance Lab, comment l'ouvrir à des chercheurs à l'international, faire saisir et puis le faire vivre aussi en termes de pédagogie, au sein du master, le faire saisir en fait et le faire exister. Je crois qu'il est 16h30.
C'est toujours des présentations. Ok, bravo.